CDI Podcast.
Entrepreneur de légende.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur de légende. Je suis Mickaël Icard, journaliste pour CDI Média et j'ai avec moi l'incontournable Sylvain Bersinger, économiste pour le cabinet Asterès. Bonjour Sylvain.
Bonjour Mickaël.
Tu vas bien ?
Ça va et toi ?
Ouais, ça va, écoute, ça va super. Alors en plus, je sais qu'aujourd'hui on va te faire plaisir car c'est un de tes entrepreneurs préférés. Et c'est normal car c'est un des plus emblématiques. Il combine des facultés d'invention, de science, de bricolage avec cette maîtrise des affaires qui fait que sa réussite est logique. Il est à l'origine de la création du mastodonte économique General Electric. On vous présente l'histoire incontournable de Thomas Edison. Et c'est paradoxal car c'est sûrement un des pionniers du son dont les travaux vous permettent aujourd'hui de nous écouter. Branchez votre phonographe, on y va.
CDI Podcast, entrepreneur de légende.
Alors tout commence, Sylvain, en 1847 à Milan, mais pas en Italie.
Oui, en effet. Donc Thomas Edison est né en 1847 à Milan, mais Milan, comme tu l'as dit, c'est une petite ville de l'Ohio. Ça n'a rien à voir avec le Milan, Italie. Ou peut-être que le nom vient de Milan, Italie, mais en tout cas, il est bien 100% américain. Donc il est né dans une famille, on va dire, classe moyenne de l'époque, plutôt modeste, mais pas pauvre non plus. C'est un garçon qui est très précoce intellectuellement, et on peut même dire un peu trop pour son instituteur, puisqu'il est hyperactif, il pose plein de questions, il s'intéresse à tout, et son instituteur n'aime pas trop ça, clairement. Donc il est plus ou moins renvoyé de l'école, et c'est sa mère donc, qui lui fait la classe. Donc il se forme un petit peu à la maison avec sa mère, avec des livres. C'est un lecteur boulimique. Il dira qu'il n'a pas lu des livres de la bibliothèque, mais qu'il a lu toute la bibliothèque de sa ville. Et donc très jeune, il est très curieux, très bricoleur, très inventif.
Et il s'intéresse aux sciences, très jeune.
Il s'intéresse aux sciences, à la technique. Quoi. Il est curieux de tout. Il est vraiment curieux de tout. Donc par exemple, à 5 ans, il voit que les poules couvent les œufs. Il se dit, moi aussi je pourrais couver les œufs. Donc il s'assoit sur les œufs, évidemment ça ne marche pas.
Ça fait une omelette.
Ça fait une omelette, voilà. mais ça fait pas naître les poussins. Il va jusqu'à brûler la grange de ses parents pour voir comment ça brûle, pour étudier la dynamique du feu. Donc évidemment, ça plaît pas à ses parents, sans doute.
Ah bah, tu m'étonnes.
Il se bricole un petit laboratoire dans la cave chez ses parents. Donc c'est vraiment, un génie précoce, quoi. Pas scolaire, puisqu'on l'a vu, il a été, on va dire, trop en avance ou trop décalé pour s'épanouir dans le système scolaire. Mais vraiment, il bouillonnait d'idées dès l'enfance.
Mais tu l'as dit, la famille est quand même très modeste et donc il faut qu'il se mette à travailler très tôt.
Oui, donc à 12 ans, il doit travailler pour gagner de l'argent parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres solutions. Donc il commence par vendre des journaux, c'est un peu le métier typique des jeunes garçons. Donc il vend des journaux dans un train, donc sur une ligne de train, il passe dans le train à vendre ses journaux. Et alors déjà à 12 ans, il est extrêmement inventif, il bouillonne d'idées, il a déjà cet esprit entrepreneurial en lui. Et donc il commence à installer une presse à journaux dans le wagon du train.
Et plutôt que d'aller seulement donner les journaux, il crée une presse.
Voilà, il devient un petit peu imprimeur, et un peu journaliste, puisqu'il écrit un peu lui-même ses articles. Donc ce qui lui permet, en fait, vu qu'il voyage d'un point A à un point B, il prend une information à un point A, et quand il arrive au point B, son journal est déjà imprimé avec cette information qui n'est pas encore connue au point B. Donc En se déplaçant dans le train, il l'écrit et il imprime son journal.
Donc c'est malin.
C'est très malin. On voit que là, il a 12, 13, 14 ans. Il est encore très jeune. Et déjà, il a cet esprit entrepreneurial. Donc c'est une toute petite affaire. Il est tout seul à faire ça. C'est pas du tout un grand journal. Mais déjà, il commence à essayer d'inventer, d'innover, à la fois sur la technique et sur la stratégie commerciale aussi.
Il s'intéresse à la télégraphie à cette époque.
Oui, donc on est au 19e siècle. Le télégraphe, c'est le principal moyen de communication. Et donc lui, qui commence un peu par hasard à s'entrer dans le journalisme, s'intéresse évidemment à la télégraphie pour avoir des informations les plus fraîches possibles pour vendre ses journaux. Et donc il bricole des télégraphes, il apporte quelques petites innovations qui sont pas révolutionnaires, mais il a vraiment cette inventivité et cette compétence, on va dire, qu'il a créée en autodidacte, hein, totalement en autodidacte. Il devient en fait un des meilleurs ingénieurs télégraphiques du pays, alors qu'il n'est même pas majeur et il n'a jamais suivi de parcours universitaire scientifique.
Et c'est aussi à cette époque qu'il va devenir presque sourd.
Oui, alors c'est vrai qu'Edison, on l'associe évidemment à des innovations dans le son avec le phonographe.
C'est un truc de fou.
Et en fait, il était sourd, donc c'est vraisemblablement suite à une maladie qu'il est devenu sourd, autour de 13-14 ans par là. Et donc lui dira que ça a été presque une force pour lui, parce que tout le temps que les gens passent en bavardage inutile, bah lui, il le passait à lire, à expérimenter, à réfléchir. Donc c'était quelqu'un socialement un petit peu, on va dire peut-être un peu difficile à vivre, je sais pas trop comment le dire, mais les relations avec ses proches, sa famille, ses salariés, ses partenaires en affaires, etc., ont souvent été un peu rugueuses. C'était un peu bougon, peut-être un peu renfermé. Sa surdité a sûrement joué là-dessus. Mais en tout cas, ça a fait que sa vie sociale était un peu réduite et il s'est consacré à 100% à ses inventions et à ses entreprises.
Tu m'étonnes, c'est comme s'il avait un casque sur les oreilles tout le temps, quoi.
C'est un peu ça.
Mais il faut dire que de pratiquer des expériences sur son lieu de travail, à savoir le train, ça va le faire renvoyer.
Voilà, donc il avait installé donc d'abord une imprimerie et puis un petit laboratoire dans un wagon du train.
Il faut quand même de l'audace et du bagou pour faire ça.
Voilà, il en manquait pas, et le seul problème, c'est que tout ça a pris feu, donc le wagon a brûlé, et ça a évidemment pas plu à ses supérieurs, et il s'est fait renvoyer. Donc il a eu une période un petit peu de flottement, où il est renvoyé, il se cherche un peu, et c'est un peu le hasard qui va frapper à sa porte, disons.
C'est le coup du destin.
C'est le coup du destin, voilà, donc il y a un jour, il est au bord de rails, et il sauve un enfant qui allait se faire écraser par un train, donc il le pousse au dernier moment, et donc c'était le fils du chef de gare, et donc le chef de gare, pour le remercier en reconnaissance, va le pistonner pour lui trouver un emploi dans une société de télégraphe. Donc on a vu qu'il avait déjà réfléchi au télégraphe, apporté quelques petites innovations, c'est pas un outil qui lui est inconnu, donc il travaille comme télégraphiste dans différentes villes, aux États-Unis, au Canada, c'est une vie un peu itinérante pendant quelques années. Et le télégraphe est déjà, c'est une technologie installée, hein, il n'est pas du tout l'inventeur du télégraphe, mais il va apporter quelques petites innovations. Par exemple, il va programmer le télégraphe pour qu'il envoie à heure fixe un message, ce qui lui permet, sur ses heures de travail, de faire autre chose, tout en envoyant régulièrement un message à son patron pour lui dire « Ah, tu vois, je suis bien en train de travailler. »
Oui, parce que son patron avait bien repéré qu'il pouvait...
C'était un petit filou.
Voilà, qu'il pouvait ne pas travailler et faire d'autres choses pendant son travail, donc il l'obligeait à envoyer un télégraphe toutes les 30 minutes.
Voilà, donc pour être sûr qu'il travaille bien, il l'obligeait à envoyer un télégraphe, et lui, ce qu'il a fait, il a bricolé une sorte de programme, je ne sais pas trop comment appeler ça, pour envoyer un télégraphe automatiquement au patron, et en fait, pendant ce temps-là, il faisait autre chose, il faisait ses expériences, il avait recréé son petit labo dans son bureau, et donc, il va mener cette vie itinérante où il apporte quelques innovations, il gagne un petit peu d'argent, c'est loin d'être la fortune, mais enfin, il accumule, on va dire, une petite épargne, qui va lui permettre, en 1874, il a à peine 30 ans, de lancer ses premiers laboratoires et de devenir, en fait, d'une certaine façon, on peut dire, le père de la recherche industrielle moderne, puisque ça va être un des premiers qui se dit « moi, je vais être chercheur, je vais créer une société qui va faire de la recherche et je vais vendre mes inventions, vendre mes brevets ou les développer moi-même ». Mais donc, c'est les laboratoires de Menlo Park, dans la banlieue de New York.
Ça, c'est un vrai tournant, ça, parce qu'en gros, il devient un peu le premier... inventeur à vouloir démocratiser ça et à faire ça de manière industrielle, quoi.
Oui, on peut dire que c'est l'inventeur de l'invention, en fait. Hein. C'est l'inventeur de la recherche industrielle telle qu'elle existe aujourd'hui. C'est un peu un des premiers à s'organiser exclusivement, à organiser son business autour de l'invention. Avant, il y avait des industriels qui innovaient, bien sûr, pour améliorer leur productivité, etc. Mais c'était, ils étaient dans un secteur et...
Ils étaient monosecteurs.
Ils étaient un peu monosecteurs, ils cherchaient à s'améliorer dans ce secteur-là. Lui fait des recherches absolument partout. Hein. Ça va être dans l'image, ça va être dans le son, ça va être dans la chimie, dans l'électricité, bien sûr.
Et tu l'as dit, c'est à Menlo Park qui lance cette usine.
C'est dans laboratoire.
Ce laboratoire.
Donc dans la banlieue de New York, la ville a été renommée Edison depuis, en hommage à l'illustre entrepreneur.
Ça prouve quelque chose quand même.
Voilà.
Très peu de personnes ont une ville à leur nom.
C'est un des plus grands entrepreneurs de l'histoire, hein, il faut le dire. Et donc il se lance, il a une soixantaine de salariés, donc avec la petite épargne qu'il a accumulée, il peut déjà lancer une équipe assez importante. Donc au début, Edison, c'est un bourreau de travail, hein, il travaille constamment, on l'a dit, il est sourd, donc il n'a pas trop de vie sociale, sa femme et ses enfants, clairement, il est délaissé un peu, c'est pas, il n'a pas l'âme d'un père de famille. Et donc, son équipe est extrêmement productive, il dépose énormément de brevets, des centaines de brevets par an. Edison, au total, hein, il est crédité de 1000 brevets, même si certains, il les a peut-être un petit peu copiés sur ses voisins, mais bon...
Ou alors, il les a peut-être un peu pris à ses salariés.
Voilà, ou pris à ses salariés. Bon,
bon, en tout cas, c'est un peu, c'est un peu l'image qu'on retient d'Edison, d'avoir 1000 brevets, c'est quand même un truc de fou. Même s'ils ne sont pas tous utiles, il y a quand même... Enfin, ils sont tous utiles, mais ils ne sont pas tous indispensables. Il y a quand même ces 1000 brevets. Quoi.
Bien sûr, on peut dire que c'est un des plus grands inventeurs de l'histoire moderne, hein, sans aucun doute. Alors, il fait beaucoup de recherches dans plein de secteurs, et notamment dans le téléphone. Donc, le téléphone qui n'est pas encore inventé, et donc il y a deux concurrents pour inventer le téléphone qui se tirent un peu la bourre, disons. Il y a Edison, et il y a Alexander Graham Bell, son grand rival, et cette invention, c'est le grand rival qui gagne la course, on va dire, puisque c'est Bell qui invente le téléphone en 1876.
Et ça, c'est un coup de massue pour lui.
Oui, son égo en prend un coup, quand même, puisque lui aussi avait des recherches très avancées dans cette technologie, mais c'est Bell qui le double au finish. Donc Bell qui va créer après les laboratoires Bell, qui a été une très grande entreprise industrielle américaine aussi. Mais bon, Edison, il ne s'arrête pas, il continue à lancer des recherches dans plein de secteurs. Et l'année d'après, 1877, c'est sa première très grande invention, avec bien sûr l'invention du phonographe. Donc pour la première fois, on peut enregistrer un son et se le repasser à l'infini, donc avec la célèbre phrase, je vais le dire avec mon accent, mais c'est « Mary had a little lamb ».
Donc, qui est une comptine pour
voilà, enfants. Voilà, c'était un vers d'une comptine. Hein, donc, Marie avait un petit agneau, qui est la première phrase qu'il a enregistrée, la première phrase qu'on a pu réécouter indéfiniment.
Et j'imagine autant que c'était peut-être un des seuls livres qu'il avait autour de lui, peut-être ou...
Alors, peut-être. Je ne sais pas d'où lui vient l'idée de cette phrase. Mais en tout cas, cette phrase est restée extrêmement célèbre parce que c'est la première qui a été enregistrée sur un phonographe.
En tout cas, il continue à vouloir inventer des trucs. Et ce n'est pas parce qu'il a déjà inventé le phonographe. Il pourrait s'arrêter et se dire « j'ai inventé ça ». Mais non, mais lui, il veut vraiment continuer à inventer des choses.
Oui, alors lui, c'est un boulimique. C'est toute sa vie, l'invention. Donc, c'est sûr que l'invention du phonographe en soi lui permettrait de rester dans l'histoire, hein, incontestablement. Mais il s'arrête pas là, et donc 2 ans plus tard, il invente son autre, on va dire, grande invention, puisqu'on a dit qu'il a déposé 1000 brevets, mais il y a deux très grandes inventions, il y a le phonographe, et en 1879, l'ampoule électrique. Donc on a tous des ampoules électriques chez nous, partout, et c'est une invention de Thomas Edison.
Oui, parce qu'il faut resituer, à l'époque, les gens s'éclairaient avec du gaz.
Oui, du gaz ou de l'huile, hein. C'était des lampes très sommaires avec des flammes. Hein. Et donc, l'ampoule électrique, pas grand monde n'y croyait. Quand lui avait lancé des recherches là-dedans, on le prenait un peu pour un hurluberlu.
C'était pas vraiment possible, en fait. Les gens n'imaginaient pas ça réalisable.
Oui, bien sûr, bien sûr. Edison, il a eu ce côté un peu visionnaire, c'est-à-dire, si c'est possible, je vais le faire. Et donc, il a réussi en 1879. Donc, bien sûr, les premières ampoules n'étaient pas du tout celles qu'on connaît aujourd'hui. Elles chauffaient beaucoup, elles avaient des durées de vie beaucoup plus réduites, etc. Mais enfin, il invente en 1879 l'ampoule électrique. Donc, à 2 ans d'intervalle, il réalise 2 inventions absolument, absolument capitales.
Et d'ailleurs, il faut dire qu'il avait, commencé un peu à se concentrer à ses recherches sur l'électricité, et il avait notamment monté un an auparavant sa société.
Oui, donc alors il avait déjà une société qui exploitait ses laboratoires, mais puisqu'il avait mené des recherches dans l'électricité et qu'il s'orientait un petit peu plus dans cette direction-là, même si on a dit que c'était vraiment un touche-à-tout, donc il avait créé la Edison General Electric Company, qui va devenir petit à petit, suite à des fusions-acquisitions, qui va devenir General Electric, hein, le géant qu'on connaît encore aujourd'hui, qui avait racheté un bout d'Alstom il y a quelques années, ça avait fait beaucoup de bruit d'ailleurs, donc c'est toujours une des plus grandes entreprises industrielles au monde. Et donc, à partir de cette société, il va la faire grandir, il va devenir extrêmement riche, un peu à la façon d'un Henry Ford, d'ailleurs, qui sera son ami quelques années plus tard. C'est à la fois donc un inventeur, on l'a dit, mais c'est aussi un chef d'entreprise qui va développer un géant industriel et technologique.
Il crée donc cette ampoule électrique, il a créé la société pour pouvoir donc du coup assumer un peu l'infrastructure qu'il va y avoir autour de ce nouveau mode de consommation de l'éclairage, mais il veut prouver à tout le monde que c'est possible de le réaliser de manière un peu plus grandiose et grande que juste avec une seule ampoule.
Oui, donc il invente l'ampoule, mais il comprend bien que l'ampoule, il en faut un peu partout, il faut les relier, et donc c'est un des précurseurs de l'éclairage public. Puisqu'il va éclairer un quartier entier de Manhattan. Donc le projet est un peu long, il y a un peu des retards, mais...
Un peu long, mais il a mis que 4 ans.
Oui, alors il devait le faire en quelques mois, finalement il a mis...
Il l'avait annoncé quelques mois, mais il a mis 4 ans pour éclairer un quartier à l'époque.
Ne soyons pas trop durs, parce qu'effectivement, l'invention est très importante. Donc c'est, non seulement il invente l'ampoule, mais il invente aussi en fait, l'éclairage urbain, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Hein, puisqu'avant, c'était des lampes au gaz, principalement, des lampadaires au gaz dans les rues. Et lui électrifie l'éclairage urbain, alors d'abord à Manhattan, et puis après ça va s'étendre aux États-Unis, enfin dans le monde entier, comme on le connaît aujourd'hui.
Mais en fait, c'est un problème technique qui va faire que la concurrence va être un peu agressive avec lui. Donc là, c'est un peu technique, mais c'est important de le dire. Il y a une différence de courant.
Il y a une différence de courant. Alors, on n'est pas électricien, ni toi ni moi, Michael, donc on ne va pas s'engluer dans les détails techniques. Mais disons que Edison basait ses technologies sur le courant continu. Et donc, il y a une autre forme de courant qui est le courant alternatif. Qui en fait est plus efficace puisqu'il est plus facile à transporter dans des câbles sur longue distance. Donc la technologie d'Edison, elle implique d'avoir des générateurs électriques qui en fait dans beaucoup d'endroits. Donc quand vous voulez éclairer une ville, c'est pas pratique du tout. Et donc la concurrence, notamment George Westinghouse, qui était un autre industriel de l'époque, eux utilisaient le courant alternatif. Et donc Edison, qui était un peu, on va dire, bloqué, qui avait commencé avec le courant continu, il était un petit peu têtu parfois, et il ne voulait pas en démordre, et il voulait continuer avec son courant continu. Et donc, ce qu'il a essayé de faire, en fait, c'est le côté un peu désagréable, disons, du personnage.
Un peu sombre,
voilà. Il a en fait essayé de décrédibiliser ses concurrents, puisque le courant alternatif, donc il est plus transportable, mais il est aussi plus dangereux, c'est-à-dire qu'on peut plus facilement s'électrocuter avec. Donc, il a essayé de créer le mot Westinghouse pour dire électrocuter du nom de son concurrent, pour dénigrer son concurrent. Il a électrocuté des animaux devant des journalistes pour leur montrer, vous voyez, c'est dangereux, etc. Il a dit, il faut exécuter les condamnés à mort avec la chaise électrique. Donc, il n'a pas inventé la chaise électrique, mais il l'a perfectionnée, il en a promu l'usage. Donc, c'est un petit peu le père, d'une certaine façon, de la chaise électrique. Donc, il a vraiment, disons plutôt qu'essayer de se dire, ah bah oui, ma technologie n'est pas forcément la meilleure, je vais m'adapter. Il a plutôt essayé de dénigrer la concurrence plutôt que de s'adapter d'une manière, entre guillemets, qui aurait peut-être été plus intelligente.
Pendant ce temps, donc, du coup, la concurrence, elle évolue. Et lui, au-delà de ce côté sombre, il y a vraiment ce que tu as dit, c'est important. Il y a une sorte d'entêtement qui fait qu'il ne voit même pas les solutions qui peuvent être à sa portée.
Oui, alors son entêtement est d'autant plus... on va dire étrange, qu'en fait la solution il l'avait sous la main. Et donc la solution il l'avait, elle a été apportée, on va dire sur un plateau, par un ingénieur d'origine croate qui s'appelle Nikola Tesla, donc qui a été oublié pendant très longtemps.
Connaît le nom.
Maintenant on connaît le nom, puisque Elon Musk a appelé ses voitures électriques Tesla en référence donc à Nikola Tesla. Donc c'était un ingénieur d'origine croate qui avait travaillé notamment à Paris et qui était fan d'Edison et qui était venu à New York pour travailler avec Edison. Donc Edison l'avait embauché, et Tesla, donc, qui était un ingénieur absolument brillant, lui avait perçu l'intérêt, on va dire, du courant alternatif, et l'avait proposé à Edison. Mais Edison s'était entêté, et les deux s'étaient séparés, Tesla avait démissionné, et après Tesla est allé travailler pour la concurrence, donc pour notamment George Westinghouse. Et donc c'est en ça que son entêtement est un petit peu surprenant. Je pense qu'il y avait un côté d'ego, il ne voulait pas admettre qu'il ait pu se tromper, et donc il a plutôt, il a dénigré ce qu'on lui apportait, en fait, ce qu'il avait sous le nez.
Donc du coup, ce qui fait que la seule solution pour réussir à survivre dans le monde de l'électricité, ça va être de faire une fusion avec un de ses concurrents.
Oui, voilà, donc sa société, qui était très profitable, mais qui commençait à perdre des parts de marché face à la concurrence, il va être contraint de fusionner avec, donc il y a une fusion avec plusieurs concurrents, qui va être renommée, donc la société General Electric, donc le nom qu'on lui connaît aujourd'hui.
Lui ? Il va continuer, il va faire une sorte de reconversion dans d'autres domaines.
Oui, alors on a dit que c'est un touche-à-tout, donc on va dire que c'est à la fin du 19e siècle, il était très présent sur l'électricité. Après, il va s'essayer avec un succès différent, on va dire, à la chimie, il va s'essayer aux mines, essayer d'inventer des nouvelles techniques d'extraction, ça va pas forcément très très bien marcher, et il va s'essayer notamment au cinéma. Donc c'est l'inventeur du kinétoscope. Mais là encore, un petit peu comme avec ces histoires de courant, en fait, il n'avait pas forcément la bonne idée et il s'est entêté. C'est-à-dire que son kinétoscope, donc l'invention du, on va dire, du cinéma par Edison, c'est en fait une boîte. Un kinétoscope, c'est comme une sorte un distributeur, on pourrait dire, une machine à café, dans laquelle il y a une petite fente et on regarde son film par la fente.
Mais c'est que pour une personne.
Voilà, en fait, c'est que pour une personne, parce que lui, il se disait, mais si je fais une machine pour une personne, je fais payer chaque personne. Si je fais sur un grand écran, et ben, plein de gens pourront venir voir, et comment je vais facturer au client. Il n'y avait pas pensé, en fait, au concept de la salle de cinéma, qui est une invention française. Hein. C'est Charles Pathé, Léon Gaumont, qui ont inventé ce concept-là. Et donc, lui, il a enfermé le cinéma dans une petite boîte, ce qui fait que ça n'a pas très bien marché. Et quand d'autres, notamment les Français, au début du XXe siècle, ont inventé le cinéma moderne tel qu'on le connaît, hein, sur grand écran, là, une technologie qui a été inventée par les frères Lumière et développée notamment par Charles Pathé, et que cette technologie-là, d'autres aux États-Unis ont commencé à l'adopter, bah lui s'est entêté, un peu comme on a dit sur le courant alternatif et continu, et il a créé un grand trust, puisque c'était un industriel très, très, très puissant du côté de New York. Il a créé un grand trust pour essayer d'évincer la concurrence. Donc, encore une fois, il n'a pas essayé de se dire « Ah ben oui, mon invention, c'est pas la bonne, je vais m'adapter. » Il s'est dit « Moi, je suis le meilleur, je vais taper sur la concurrence tant que je peux pour essayer de l'écraser. » Et évidemment, ça n'a pas marché. Et c'est une des raisons, d'ailleurs, du départ du centre du cinéma américain, on va dire du centre de gravité du cinéma américain, de New York vers Hollywood. Puisque à New York, Edison était très puissant et il pouvait embêter ses concurrents. En Californie, il avait beaucoup moins de poids, de réseau, on va dire. Et donc, beaucoup de cinéastes sont partis en Californie, entre autres, il y a plusieurs raisons, mais entre autres, pour fuir, la vindicte d'Edison qui essayait de les empêcher de se développer.
Si vous êtes intéressé par le monde du cinéma, je vous invite à aller écouter notre épisode qu'on a fait sur Charles Gaumont et Louis Pathé. Et dans quelques épisodes, je vous promets qu'on aura un autre épisode encore consacré au cinéma. En tout cas, on va reparler maintenant encore de Edison. Edison, il n'a pas continué à inventer des choses, mais il avait quand même des visions un peu futuristes, même si elles n'ont pas marché, notamment au sujet de la voiture.
Oui, alors Edison, on l'a dit, c'est un entrepreneur, un inventeur qui a beaucoup travaillé sur l'électricité. Et lui, la voiture, il la voyait électrique. Donc, il a eu un moment l'idée de faire des batteries pour faire des voitures électriques.
Lui, il voyait la voiture électrique.
Il voyait la voiture électrique et son ami, Henry Ford, lui, évidemment, la voyait à essence. Et l'histoire a montré que c'est Henry Ford qui a eu raison, en tout cas jusqu'à maintenant, puisque depuis quelques années, on voit que la voiture électrique commence à prendre son essor. Mais en tout cas, Edison, il y a un peu plus de 100 ans, avait déjà... c'était un peu le Elon Musk de l'époque, si vous voulez, qui voyait le futur de la voiture dans l'électricité.
Donc il reste actif jusqu'à la fin de sa vie en 1931.
Oui, donc il décède en 1931. Donc jusqu'à la fin de sa vie, il va diriger son entreprise, essayer de faire des inventions. Cela dit, il va plus faire d'inventions révolutionnaires comme ça a pu être le cas avec l'ampoule électrique, avec l'invention dans le télégraphe qu'il avait apporté, le magnétophone, etc.
On a bien vu aussi que son entêtement avait pris un peu le dessus avec les années.
Oui, son mauvais caractère l'a peut-être entraîné à rester un peu bloqué dans certaines idées qui n'étaient pas forcément les bonnes. Mais effectivement, il est actif jusqu'à la fin de sa vie, même s'il ne va plus faire d'invention majeure. Et donc, en clin d'œil à Edison, lors de sa mort, le président Hoover fera éteindre les ampoules électriques dans toutes les villes du pays pendant quelques minutes pour bien marquer, pour montrer aux gens, voilà, si Edison n'avait pas inventé l'ampoule et l'éclairage urbain, voilà ce que serait votre vie. Donc il y a ce petit clin d'œil au moment de son décès, comme un coup de chapeau à l'inventeur.
On peut dire que Thomas Edison a complètement révolutionné son époque, et même maintenant, plus de 100 ans après, certaines de ses inventions restent au cœur de nos usages. Et il mérite, bien sûr, le fait d'avoir une ville à son nom. Merci Sylvain.
Merci Mickaël.
On se retrouve dans 15 jours ensemble sur CDI Podcast pour un nouveau portrait. Et si on a envie de te lire, c'est possible grâce à ta série de livres Entrepreneurs de légende. À bientôt.
CDI Podcast. Entrepreneurs de légende.